Bah, vous mangez du beurre.
Si tu savais.
Il y a 2-3 ans, on achetait 3 euros, 3,50 euros du kilo. Le prix du beurre, aujourd'hui, on est plus proche des 8 euros, 8,50 euros.
Moi, tous les matins, quand je branchais une vache et tous les soirs, je savais que quand je branchais ma vache, je perdais de l'argent. Tout l'or blanc qui était dans mon tank, c'était de l'or pour l'industriel, mais certainement pas pour moi.
Le beurre, provocateur de goût.
Et pour évoquer la pauvreté, Julien Damon, sociologue, professeur à Sciences Po, bonjour. Et Claire Hédon, vous êtes la présidente de l'association ATD Carmonde. On vient d'évoquer cette pénurie de beurre pour tous. J'aimerais que l'on évoque ceux qui, aujourd'hui en France, sont mal nourris. Où la question se pose-t-elle et comment se pose-t-elle, Claire Hédon?
Alors la question se pose parce que tout simplement quand on vit au minima sociaux, 548 euros par mois pour ce qui est du RSA, les études qui ont été faites dans les zones tendues, c'est-à-dire où le logement est assez cher, il reste 58 euros par mois pour se nourrir. C'est moins de 2 euros par jour. Donc effectivement quand on voit ça, on se doute bien que c'est compliqué de se nourrir, entre autres de se nourrir de façon équilibrée. Et on a fait des enquêtes nous et des études avec des personnes en situation de précarité qui disent « mais moi le message 5 fruits et légumes par jour, je l'ai parfaitement entendu, je suis parfaitement d'accord, mais je fais comment quand il me reste aussi peu pour me nourrir ? Entre guillemets, j'essaie de prendre des choses qui calent le plus et qui, du coup, c'est pas ce qu'il y a de plus équilibré.
Alors, il y a les restos du cœur ? Qu'est-ce que vous en pensez, Claire Hédon ? Je suis un peu malicieux dans ma question.
Mais la question, c'est évidemment que les personnes ont besoin de se nourrir correctement. Mais d'abord, réduire la pauvreté à la question de se nourrir correctement, la pauvreté, c'est bien plus large que ça. C'est un terme de non-accès aux droits, plus large que simplement la question de la nourriture. Et ce que nous disent, en tout cas, les personnes en situation de précarité, c'est qu'elles n'ont pas envie d'une filière différente. Et ce qu'on est en train d'organiser, c'est finalement une filière pour les plus pauvres avec de la distribution alimentaire. Et puis, vous et moi, on a le droit d'aller au supermarché. Ce que nous disent les personnes en situation de précarité, c'est qu'elles voudraient se nourrir comme les autres. Et alors, il y a par exemple l'histoire des bons alimentaires, pour résoudre cette question-là, parce que ça fait un moment qu'on pose là-dessus. Et alors, j'ai le souvenir très précis...
En fait, pour le dire autrement, Claire Hédon, vous considérez que ce système des restos du cœur, aujourd'hui, hélas, indispensable, il crée deux circuits.
Mais les Restos du Cœur le reconnaissent aussi d'ailleurs. Enfin, eux-mêmes disent on devrait être amené à disparaître.
Ça fait longtemps qu'ils ne disparaissent pas.
Mais surtout ce que nous a dit Micheline, une personne qui est en grande précarité et qui est dans le conseil d'administration et qui nous dit mais un jour où je suis au supermarché avec les bons alimentaires qui est un autre système et où la caissière devant tout le monde dit mais qu'est-ce que je fais de ce bon alimentaire? Elle me dit mais ça a été la honte. Tout le monde, donc au regard de tout le monde, j'étais la personne pauvre. Et c'est insupportable. Les gens ont envie, les personnes ont envie de vivre, entre guillemets, normalement comme tout le monde. Et donc, on a tous envie de se fournir naturellement au supermarché. Ce qui est indécent, finalement, en fait, c'est d'avoir des minima sociaux tellement faibles que les personnes sont obligées de recourir à la distribution alimentaire.
Vous en avez parlé avec Emmanuel Macron ?
Alors, on a parlé de toutes ces questions-là, donc puisque vous savez que le 17 octobre, justement, Journée mondiale du refus de la misère, les associations, mais pas que les associations, aussi les acteurs locaux, les départements, les centres sociaux, ont été reçus par le président de la République pour le lancement de cette concertation. Alors, on a pu tous honnêtement s'exprimer et dire qu'est-ce qu'on attendait d'une concertation de la lutte contre la pauvreté. Moi, je vous dirais, si vous me demandez quel est le point le plus important, la participation des personnes. Il faut qu'on arrête de penser qu'on va décider pour les personnes en situation de précarité ce qui est bon pour elles.
Dans le Canard enchaîné de ce matin, Claire Hédon, il était dit que Emmanuel Macron ne voulait pas être appelé le président des riches et qu'il avait fait cette concertation pour allumer un contre-feu. Vous avez l'impression d'être instrumentalisé par l'Élysée ?
Non, je ne pense pas qu'il faille le prendre comme ça. Et ce serait une erreur de notre part parce qu'on a tout intérêt à être constructif dans ces 6 mois de concertation pour essayer qu'un maximum de nos propositions, et je dis non parce qu'il n'y a pas que le mouvement ATD Carmonde, il y a tout le réseau Alerte qui réunit l'ensemble, une grande partie des associations de lutte contre la pauvreté. On a intérêt que ces 6 mois de concertation soient utiles et qu'on fasse avancer les choses. Donc non, je ne pense pas du tout qu'on soit instrumentalisé. La vraie question, je pense qu'il y a une vraie volonté gouvernementale sur cette question. Le grand problème, ça va être quels moyens financiers derrière.
Et alors justement, quelles sont les propositions concrètes qui vous sont faites ?
Alors, pour l'instant, c'est vraiment de débattre. Alors, le point de départ, c'est l'enfance, donc la prévention. Et l'idée du gouvernement est de mettre l'accent sur l'enfant en disant, on va faire de la prévention. Nous, cette idée-là...
Mais parce qu'apparemment, Emmanuel Macron a une vision très... c'est un constat de fait.
Je ne l'ai pas vu en tête-à-tête, pour savoir quelle est complètement sa vision.
Moi non plus, je ne l'ai pas vu en tête-à-tête, mais j'ai lu les journaux ce matin. Et il est beaucoup question donc, d'une vision donc, de la pauvreté qui serait déterminée socialement dès l'enfance, avec une volonté de lutter contre ce qui cause la pauvreté, ce qui n'est pas sans rappeler en fait ce que faisait, ce qu'a fait en son temps Tony Blair, puisque avec son programme en Angleterre, No Children Left Behind, il y avait donc la volonté de sortir de ces trappes de pauvreté les enfants. C'est comme ça qu'il a évoqué ses souhaits et le plan qu'il souhaite mettre en place contre la pauvreté, Claire Hédon.
En tout cas, manifestement, ce plan, partir des enfants. Cette idée-là, d'ailleurs, en fait, honnêtement, c'est plutôt une bonne idée. Parce que partir de l'enfant, on est bien d'accord qu'on parle de l'enfant dans sa famille. Et donc, on va travailler sur l'ensemble des droits. On va travailler forcément sur le logement, on va travailler sur l'accès à une éducation de qualité, on va travailler sur l'accès à la culture, l'accès aux soins et aussi l'accès au travail des parents. Parce qu'on sait bien que si les parents vont bien, l'enfant va pouvoir apprendre. Donc, cette approche, elle est intéressante parce que nous, on pense qu'elle nous permet de travailler sur l'accès aux droits. Il ne faut pas oublier les hommes seuls et les femmes seules.
Julien Damon, sur cette réaction, vous qui êtes sociologue.
Trois petites remarques. D'abord, No Children Left Behind, ce n'est pas un programme anglais, c'est un programme américain. Mais ce qu'a fait Tony Blair, c'est qu'en 1997, il a fait un discours en évoquant un objectif fondamental pour sa politique sociale, qui est d'éradiquer la pauvreté des enfants sur le temps d'une génération. C'est assez malin parce que ce n'est pas le temps d'une mandature. Deuxième remarque.
Et du coup,
oh, ils ont mis
aujourd'hui,
en place...
lorsqu'on.
Oh, mais ils sont très mauvais, les Britanniques, mais comme les Français, en pauvreté des enfants. Alors, on peut se bagarrer et débattre pendant des heures de qu'est-ce que la pauvreté,
etc. Donc, c'était un effet
d'annonce. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à diminuer une pauvreté infantile. Vous avez à peu près un cinquième des enfants au Royaume-Uni, comme en France, qui vivent dans des situations de pauvreté, sous le seuil de pauvreté. Ils n'ont pas réussi à diminuer avec les investissements qu'ils ont faits,
oui,
comme de créer des capitaux.
C'est ce que je viens de dire. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont annoncé ça, mais ça n'a pas fonctionné.
Ça n'a pas fonctionné, mais ils ont tout de même investi. Non, ma deuxième remarque porte sur les transformations de la pauvreté. Si aujourd'hui, le président Macron ne veut pas être le président des riches, mais veut apparaître comme le président des enfants pauvres, il a de cette mesure bien raison. Pourquoi ? Parce que la pauvreté en France, depuis très longtemps, était une pauvreté de personnes âgées. Et la pauvreté des personnes âgées qui demeure, mais qui diminue chaque année, n'est plus aussi préoccupante que la pauvreté des jeunes. Une nouvelle fois, on a quand même 20% des enfants qui sont comptés comme pauvres en France. Et troisième remarque sur les transformations de la pauvreté liée à l'alimentation. Autrefois, les pauvres étaient malingres et les riches, très riches, étaient obèses. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Je caricature, mais c'est vrai dans les pays riches. Aujourd'hui, grâce au programme nutritionnel, les riches savent qu'ils peuvent et qu'ils doivent manger 5 fruits et légumes par jour. Et les pauvres, eh ben, sont condamnés à la malbouffe. Que ce soit de la malbouffe servie en queue de camion, au cul des camions des Restos du Cœur, c'est l'expression qu'ils emploient, ou dans la restauration rapide.
Aujourd'hui, lorsque l'on parle des pauvres, de qui parle-t-on en France, Julien Damon ? Alors, on a une définition, et ça vous fait sourire parce que c'est effectivement une question qui est sempiternelle lorsqu'on évoque la pauvreté avec des batailles de chiffres, mais pour essayer de fixer les esprits sur la question de la pauvreté.
Bah, je vais bien vous le faire en trois temps. Il y a une première chose très importante, c'est le sentiment de pauvreté, la part des gens qui s'estiment en difficulté, qui s'estiment pauvres. C'est capital. Et vous avez en France près de 40% des gens qui vous disent « je suis en situation de pauvreté, je l'ai été ou je risque d'y tomber ». Et les sentiments, c'est comme en amour, c'est fondamental. Deuxième approche, on a une approche que l'on pourrait dire administrative, puisqu'on a ces minima sociaux que citait Claire, qu'il s'agisse du RSA ou en matière de santé, nous avons une couverture maladie universelle complémentaires, les personnes qui bénéficient de ces dispositifs sont considérées comme pauvres administrativement. Et là, on a à peu près 10% de la population, un peu plus d'ailleurs, qui survit plus ou moins bien grâce à ces dispositifs. Et la troisième approche, qui est la plus commune, qui fait des disputes entre spécialistes, c'est que en France, comme dans l'Union européenne, on a fixé conventionnellement un seuil de pauvreté. Aujourd'hui, pour une personne seule, c'est un peu plus de 1000 euros par mois de niveau de vie. Et on a, en France, près de 9 millions de personnes qui sont dans cette situation, soit un peu plus de 14% de la population. Certains, et notamment chez ATD Quart Monde, estiment que ce seuil de pauvreté n'est pas celui de la grande pauvreté.
C'est ça.
Le Claire Hédon, vous qui êtes présidente d'ATD Quart
Monde. Le chiffre que je trouve le plus intéressant, c'est le 40% du revenu médian, c'est-à-dire 2 300 000 personnes qui vivent avec moins de 670 euros par mois. Là, je pense que ça parle à tout le monde et on se rend bien compte que vivre avec moins que ça, c'est très compliqué. Je trouve très intéressant le chiffre que vous avez donné sur 40% de la population française qui se sent en situation de pauvreté. Mon assistante, parce que vous savez que je suis journaliste à RFI dans la vie de tous les jours, mon assistante a découvert avec les fonctions que j'ai à ATD Quart Monde qu'elle n'était pas pauvre, justement, alors qu'elle avait ce sentiment-là. Et ça, c'est très intéressant, la différence entre le sentiment et la réalité. Et puis l'autre chose, on est en train de parler que de revenus financiers. Mais la définition de la pauvreté, c'est pas simplement un manque d'argent. C'est aussi un non-accès aux droits. Et les droits dont je vous parlais, non-accès au logement, non-accès à une éducation de qualité, ceux qui sont en échec scolaire, les 100 000 jeunes qui sortent sans aucune qualification sont issus justement de cette pauvreté. C'est un non-accès à la culture, à des soins de santé, au travail. C'est ça la réalité. Et on a d'ailleurs, à ATD Quart Monde, lancé une grande étude internationale en recherche participative avec l'université d'Oxford, donc avec des chercheurs de haut niveau, dans 7 pays, des pays du Sud, le Bangladesh, la Tanzanie, la Bolivie, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Ukraine, pour définir des indicateurs de pauvreté qui ne soient pas que des indicateurs financiers. Et on a de l'ambition, on veut que du coup les indicateurs de pauvreté changent aux Nations Unies, à la Banque mondiale et au FMI.
Est-ce que vous avez déjà des résultats provisoires?
On en est au tout début, on en est à la première année. Il nous va nous falloir 3 ans pour avoir des dimensions, probablement 3 ans supplémentaires pour avoir de réels indicateurs. Mais en tout cas, c'est intéressant et surtout de faire cette recherche avec des personnes en situation de précarité, ce qui n'avait jamais été fait.
Parce qu'il y a un autre indicateur qui, moi, m'a toujours paru très intéressant, c'est le fait de considérer, alors là aussi on peut se battre sur les pourcentages, mais disons entre la moitié et le tiers des revenus qui seraient disponibles pour des dépenses non indispensables, c'est-à-dire une fois qu'on a payé son logement, une fois et qu'on a payé sa nourriture, combien reste-t-il en pourcentage du revenu pour faire des achats qui peuvent passer pour inessentiels, mais qui en réalité sont perçus comme importants? Alors ça va donc des vêtements au téléphone portable. Et là, Julien Damon, on a une autre approche à la fois de la pauvreté et puis de ce qui vient après, c'est-à-dire la classe moyenne. Quand sortons de la pauvreté pour aboutir à la classe moyenne?
Alors c'est une approche en effet que l'on baptise des dépenses contraintes ou, dans termes plus pompeux encore, des dépenses non arbitrables. C'est la part des dépenses qui fait que chaque mois, vous êtes obligé au début du mois de payer vos impôts, dont la CSG ou la TVA, les charges de logement, qui sont le poste le plus important au sens où c'est ce poste qui a le plus augmenté sur les 30 dernières années, vos assurances. On pourrait intégrer les frais de télécommunication, mais ils ne sont pas aussi importants qu'on l'imagine. Et en effet, pour les personnes pauvres, alors quelles que soient une nouvelle fois les seuils et les définitions que l'on prend, on s'aperçoit que ces dépenses contraintes sont devenues proportionnellement presque aberrantes, puisque vous avez des gens qui, au début de chaque mois, ont déjà la moitié, voire les 3/4 de leur budget qui sont passés en dépenses non arbitrables. Et il reste, pour une partie de la population au minima sociaux, en effet, des gens qui n'ont que 2 $ de pouvoir d'achat. Ce qui correspond à la définition internationale de la grande pauvreté.
Claire Hédon, en France, c'est comme ça.
Et du coup, rien pour les plaisirs. Enfin, et parce que comme tout le monde, alors vous avez cité téléphone et tout, mais même la culture, voilà, aller dans un musée, acheter un livre, aller dans des parcs, il ne reste rien pour le plaisir. Et ça, c'est quand même très destructeur de la vie. On vit tous aussi des plaisirs.
Claire Hédon, vous avez défini ce qu'était la pauvreté pour vous. Qui sont en France ces personnes pauvres? Est-ce qu'on peut dire où elles habitent, d'où elles viennent? Est-ce que, comme l'a dit Emmanuel Macron, il y a une vision extrêmement déterministe en France de la pauvreté qui se vérifie dans les faits?
Alors la reproduction de la pauvreté, c'est vrai. Nous, on est majoritairement avec des familles issues de la grande pauvreté et dont la grande crainte des parents, c'est que leurs enfants soient aussi en situation de pauvreté. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un cycle à casser et dans lequel l'éducation, la question de la réussite scolaire est absolument essentielle. Après, on pourra avoir l'image que ce sont beaucoup de personnes issues de l'immigration. C'est faux. Il y a aussi beaucoup de Français, j'irais entre guillemets, depuis plusieurs générations dans la grande pauvreté. Et après, comme définition, c'est... Moi, ce qui m'a fortement frappé quand je suis rentrée dans ce mouvement ATD Quart Monde il y a 25 ans, c'est qu'on pouvait sortir du système scolaire français, hein, en ayant fait toute sa scolarité en France, en étant en grande difficulté de lecture et d'écriture, et à terme en perdant la lecture et l'écriture. Et ça, c'est quand même très impressionnant.
Julien Damon.
Ah bah, puisque nous fêtons les 60 ans d'ATD Quart Monde, si on regarde les évolutions de la pauvreté sur 6 décennies, les pauvres auparavant c'était d'abord des personnes âgées, aujourd'hui ce sont d'abord des enfants et des jeunes. Les pauvres auparavant étaient dans des familles nombreuses, aujourd'hui les pauvres sont d'abord dans des familles monoparentales. Je vous connais, vous êtes caustique, vous direz il y a des familles monoparentales nombreuses. Certes, mais elles sont très peu nombreuses. Les pauvres auparavant étaient chômeurs, ne trouvaient pas d'activité. Aujourd'hui vous avez naturellement des taux de pauvreté très élevés parmi les chômeurs, mais vous avez aussi le phénomène des travailleurs pauvres, c'est-à-dire des gens qui vivent dans des ménages, eux-mêmes exerçant une activité professionnelle, parfois salariés, parfois convenablement rémunérés, mais au regard de leur situation familiale, ils se trouvent sous le seuil de pauvreté. Vous avez, avec cette monoparentalisation de la pauvreté, ce sont moins les familles nombreuses que des familles monoparentales, aussi une certaine féminisation de la pauvreté. Enfin, sur la question de l'immigration, qui est une question très disputée, vous avez quand même une transformation de la pauvreté. On peut l'illustrer plutôt que chercher à donner des chiffres. Dans les années 80, lorsque au milieu des années 80, on crée les Restos du Cœur, il fallait parler une langue pour la distribution des repas. Dans les années 90, il fallait parler quelques langues issues du bloc de l'Est qui s'écroulait. Aujourd'hui, il faut parler toutes les langues du monde. Donc, il y a une forme d'internationalisation de la pauvreté en France.
Et puis, Claire Hédon, enfin, sur le lieu d'habitat de ces pauvres. Alors là aussi, il y a eu beaucoup de querelles de spécialistes pour savoir si les pauvres habitaient dans les banlieues des grandes villes ou bien s'ils étaient essentiellement situés dans des zones reléguées qui seraient des zones rurales ou périurbaines, comme on les appelle. Votre sentiment à cet égard, vous qui êtes présidente d'ATD?
Il y a les deux, c'est-à-dire il y a la banlieue, il y a effectivement dans la campagne des zones de pauvreté.
Et il y a aussi... Est-ce que c'est de la pauvreté cachée dans les campagnes?
Mais même à Paris, elle est cachée. Parce que vous ne voyez, par exemple, à Paris, que les personnes sans domicile fixe. Mais vous ne voyez pas toute une partie de la pauvreté qui est cachée, d'ailleurs parce que les gens ne se montrent pas et se cachent. Et en fait, on a l'impression de connaître et de la côtoyer. Pauvreté, la réalité, c'est qu'on est dans une société très scindée où on ne se côtoie pas. Et donc, il y a aussi dans certains centres-villes en province qui sont devenus des lieux justement avec un grand pourcentage de personnes en situation de pauvreté.
J'oubliais une des grandes transformations de la pauvreté, c'est que la pauvreté s'est en France urbanisée, pour le dire même plus profondément, concentré dans des zones qui étaient baptisées zones urbaines sensibles, qu'on baptise maintenant quartiers prioritaires. Donc c'est pas du tout un sujet rural, même s'il demeure dans la ruralité des problèmes et des difficultés, c'est un problème de concentration urbaine.
Julien Damon, vous avez d'ailleurs publié Un monde de bidonville, migration et urbanisme informel aux éditions du Seuil. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes aux côtés de Claire Hédon, présidente de l'association ATD Carmon.